15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour avec ma camarade Ombline. Comment ça va?
Bonjour, ça va bien Olivier?
Bien.
Oui, bien, merci.
Bon, c'est bientôt le week-end que je vous ai annoncé hier en avant-première.
C'était déjà jeudi.
Pendant 7h, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Comme vous le savez, Europe 1 s'intéresse à vous. Diviser au centime près la note au restaurant, faire peu ou pas de cadeaux, être à l'affût de la moindre économie, parfois même oublier sa carte bleue pour ne pas avoir à payer. Le radin compte tout le temps et pour lui, un sou est un sou. Le radin ne l'est pas seulement pour lui, mais aussi pour son entourage. D'ailleurs, certaines relations tournent mal ou tournent court avec un proche trop pingre. Pour certains, la radinerie est un défaut rédhibitoire. Mais que traduit cette radinerie? Pour de nombreux psychologues, c'est la peur maladive de manquer ou de vivre avec un sentiment d'insécurité permanent. Alors comment faire la différence entre un économe et un radin? Surtout, comment vivre auprès d'un radin? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Si vous avez un ami qui est radin, si votre conjoint l'est ou si vous l'avez quitté pour cause de radinerie, et si vous êtes vous-même radin et que vous vous soignez, appelez-nous dès maintenant au 3921. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, et n'hésitez pas également pour nous écrire. C'est Twitter, hashtag Europe 1. Il y a également le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Laura. Bonjour Laura, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Donc moi j'ai 30 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord, une parisienne donc. Vous avez une amie qui a visiblement un problème avec l'argent, mais vous ne l'avez pas compris tout de suite. Vous dites qu'au début son attitude était bizarre à certaines soirées, racontez-moi ça.
Oui, tout à fait. Bah, en fait on avait l'habitude de sortir entre amis, pour des afters, tout ça. Et à chaque fois qu'on sortait, nous on prenait quelque chose à manger, elle prenait jamais rien, c'était toujours un verre. Et on a commencé à avoir des doutes et on s'est dit peut-être qu'elle a un problème avec la nourriture.
D'accord.
Parce que c'est une copine qui est très mince.
Oui.
Et du coup, tout de suite, moi, j'ai pensé qu'elle avait des troubles alimentaires.
D'accord.
Et voilà.
Et finalement, ce sont d'autres comportements qui ont fini par vous questionner.
Oui, c'est surtout quand elle est venue me visiter à l'étranger.
Oui.
Voilà, j'étais en mission professionnelle à l'étranger. Elle est passée me voir. Donc, elle était très, très contente de venir et de ne pas avoir de loyer à payer.
Mm-hmm.
Elle arrêtait pas de me le répéter régulièrement. Ah, c'est super, je suis venue, j'ai pas de loyer à payer, etc. Bon. Jusque-là, j'avais rien remarqué.
Mmh.
Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, là, je la voyais un peu plus. Je la voyais la journée. Donc, je voyais qu'effectivement, elle faisait en sorte de manger le plus tard possible.
Oui.
Donc, vers 16h, 17h, au plus tard. Mmh. Et pour ne rien manger le soir ou juste une banane.
D'accord. Donc ça, on pouvait encore penser que c'était à mettre sur le compte des troubles alimentaires.
Oui, mais c'était bizarre quand même. C'est-à-dire que quand tout le monde prend à manger et qu'elle ne prend pas, franchement, ça devenait de plus en plus louche. Et je lui demandais, elle me disait non, c'est bon, j'ai pas faim, etc. Bon. Et là où j'ai su que, comment j'ai su que c'était pas ça, c'est on était allé une petite anecdote au restaurant après une journée à la plage, où on n'avait pas mangé grand chose.
Mmh.
On est tous partis au resto et là, en fait, il se trouve qu'elle voulait à tout prix. Elle a vraiment insisté pour qu'on aille dans une sorte de bubuie, en fait. Elle voulait surtout pas qu'on aille dans un resto trop cher.
D'accord.
Il y a des bons restos là où on était en vacances. Franchement, on pouvait se faire un bon resto. Et donc, moi, je voulais absolument pas manger de la nourriture à l'extérieur parce que c'est dangereux parfois.
Ouais, il faut faire attention à l'étranger. En tout cas, lorsqu'on est en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie,
exactement.
Il vaut mieux aller quand même dans des restos, des bons restos.
Et comme moi, j'ai la santé fragile, tout ça, j'avais peur.
Mm-hmm.
Et je lui disais, mais moi, je préfère quand même qu'on aille manger quelque part dessus. Elle me dit, mais non, vaut mieux qu'on aille là-bas, c'est moins cher, tout ça. Bon, elle a tellement insisté, c'était vraiment pour le prix, elle n'arrêtait pas de répéter ça. Je dis, bon, ok, elle a insisté, elle a vu un petit bubu, on y allait. On rentre dans le resto, on s'installe. Déjà, moi, je sentais que le cadre, c'était au niveau hygiène, c'était pas ça, quoi, ça se voyait.
Ouais.
Donc, je lui dis, t'es sûre que tu veux rester là? Elle me dit, mais oui, regarde la carte, c'est moins cher. Les prix étaient vraiment bas, ça c'est clair. Rien à voir avec les cartes habituelles des restos, Donc, elle me dit, regarde, c'est super moins cher. On reste ici. Bon, on reste, on prend nos plats, etc. On commence à manger, et là, c'est le drame. Donc, elle vomit tout ce qu'elle a mangé. Là, j'ai vraiment peur. Et je suis allée dans les cuisines pour voir en plus, parce que je leur ai dit attention, ma copine, qu'est-ce que vous l'avez fait manger, etc. Quoi. Et là, j'ai vu au niveau des cuisines qu'il n'y avait pas d'hygiène du tout, en fait.
Et est-ce que passé cet épisode-là, pendant ses vacances, par exemple, vous l'invitiez, est-ce que normalement, quand un ami nous invite, on essaie de lui faire plaisir, donc c'est un bouquet de fleurs, ou c'est on lui paye un verre, ou on l'invite à dîner. Est-ce qu'elle le faisait ça?
Alors oui, elle sait rendre. Ça, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, par exemple, de l'inviter. Et derrière, après, elle me réinvitait pour un verre. C'est-à-dire que si je lui offrais un verre, après, elle m'offrait un verre en retour. Sinon, globalement, ce qui me choquait, moi, c'est que, insister à tel point pour aller dans un resto moins cher, dans un petit bouboui à tout prix parce que c'est moins cher, déjà là, moi, j'ai pas compris. En fait, j'avais envie de bien manger.
Elle gagnait bien sa vie, votre copine.
Pardon. Ça aussi, c'est très important parce qu'elle a un très bon travail. Je ne veux pas donner son salaire, mais elle a un très très bon travail. Donc, c'était d'autant plus inadmissible. C'est ça qui est choquant, en fait.
Laura, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre histoire. Et ensuite, nous accueillerons Patrick Avran pour en discuter. Il est psychanalyste et écrivain, auteur du livre « Petite psychanalyse de l'argent ».
Il y a Hervé qui nous a appelé au 39-21. Hervé a 38 ans, il vit du côté de Châlons-en-Champagne. Mon père est tellement radin que même dans le choix du magazine télé, il se tourne vers le moins cher, en l'occurrence Télé Z. Il a manqué petit et c'est l'enfer au quotidien.
En même temps, c'est pas cher.
Non, c'est vrai. Radin. Pourquoi payer plus? On se demande cet après-midi comment vivre aux côtés d'un radin. Vous êtes radin, votre conjoint, un parent, se crispe à l'idée de dépenser quelques euros. Venez nous raconter votre quotidien au 39-21, 50 centimes la minute. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment expliquer que le fait de dépenser de l'argent soit une source d'angoisse? Vous vous considérez comme quelqu'un d'avare, vous vivez aux côtés d'un radin, vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Laura qui nous racontait combien son ami était pingre. Elle s'en est d'ailleurs rendu compte de ce côté radin. Lorsqu'il s'est révélé lors d'un long séjour où elle avait invité son amie. Laura, avez-vous déjà essayé de parler à votre amie de son rapport à l'argent ?
Ouais, j'ai dû l'aborder. En fait, pendant le séjour, je me suis agacée à un moment donné. Je sais plus comment je lui ai dit ça, mais en gros, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tu étais beaucoup, t'es prête, t'es sous. Enfin, je sais plus, je lui ai sorti une phrase, c'est vraiment sorti tout seul.
Ouais.
Et en plus, elle l'a pas mal pris. Elle m'a dit, ah oui, non, mais tu comprends, moi, cette famille, en fait, mon papa, il est radin. Elle m'a carrément dit ça. Mon papa, il est radin. Tu sais, nous, on n'allait pas en vacances. Il voulait pas dépenser. On a toujours été comme ça. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. Tu reproduis le schéma. Et sa réponse, c'était soit tu le connais pas, lui c'est pire. Genre pour elle, comment elle est, c'est rien en fait, comparé...
Au final, Laura, ça ne vous a pas empêché de rester amie? Il n'y a jamais eu d'accro entre vous?
Bah non, parce que en fait, ce qu'elle mange pas, c'est son problème à la rigueur.
Non, mais bon, après, ça peut vous amener à éviter des situations, à vivre avec elle maintenant.
Voilà. Parfois, j'ai eu honte, c'est arrivé, surtout quand on était en vacances, on mangeait avec des amis, et mes amis prenaient un repas, et elle était toujours à son verre qu'elle avait commandé à 19h30, alors qu'il devait être 21h30.
D'accord.
Et elle continuait à aspirer le jus de son mojito jusqu'à ce que ça se termine. C'était fini. Et j'ai dû lui faire la réflexion, parce qu'on la regardait, et je crois qu'elle ne se rend pas compte, en fait, vraiment. Parce que je lui fais la réflexion, je lui ai dit, mais ton verre est fini, là. C'est bon, tu peux t'arrêter de... Il n'y a plus juste fini.
On a l'impression, voilà. On a l'impression, en tout cas, avant de vous quitter, que c'est plus fort qu'elle, votre amie. Elle vous dit, mon père était comme ça, et finalement, moi, je suis comme ça. C'est ça, c'est plus fort qu'elle?
Ouais, moi, je pense que ça vient de loin, c'est son éducation. C'est un schéma, en fait, elle a été élevée comme ça. Et encore, elle se trouve soft. Donc, du coup, pour moi, non, pour elle, elle est normale. Et puis, c'est son droit, c'est ce qu'elle te dit aussi, je pense. C'est son droit. Elle est prête à dépenser de grosses sommes dans d'autres choses, dans les fringues notamment. Mais sinon, pour la nourriture, non, elle trouve que ça ne nécessite pas de dépenser trop.
Alors souvent les radins, ça porte sur l'hôtel, ça porte sur les taxis, ça porte sur la nourriture. Mais quand il s'agit de s'acheter des fringues, surtout les filles radines, là il y a une espèce de passe-droit. En tout cas, ce qui est plutôt rassurant, c'est que vous l'aimez toujours, cet ami. Et c'est ce qu'on peut tirer
après
de
tout,
cette histoire.
Voilà, c'est son problème, j'ai envie de dire. Moi, si je veux l'inviter, je l'invite. Surtout que ça le rentre. Après, je pense que c'est calculé. Hein, alors que moi, je le calcule pas quand j'invite quelqu'un.
Bon, voilà, bah, c'est bien. Grave. C'est bien. Merci voilà. beaucoup, Laura, pour votre témoignage au 39-21 et passez une bonne journée. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Et nous accueillons maintenant Patrick Avran sur notre antenne pour prendre un peu de recul sur ce témoignage. Vous êtes psychanalyste et écrivain, auteur du livre « Petite psychanalyse de l'argent ». Bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors, ma première question porte sur cette radinerie, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle traduit, cette radinerie, chez quelqu'un, généralement ?
Ce qu'elle traduit, généralement, c'est tout simplement la peur d'avoir de dépenser. Ça, c'est par définition. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on dépense, on a l'impression qu'il y a quelque chose que l'on va perdre. Mmh. Mais perdre, c'est pas simplement perdre de l'argent, c'est perdre la vie. C'est-à-dire qu'un radin, profondément, c'est quelqu'un qui s'économise et qui, pour s'économiser, économise sur tout. Le problème étant qu'effectivement, là, le témoignage qu'on a eu, on pourrait dire que c'est une radine heureuse.
Oui, exactement,
tout, hein.
Exactement.
Ça se passe bien. Le problème, c'est que en s'économisant, on se coupe des autres parce que on a toujours peur d'être en dette. Dans le témoignage qu'on a entendu, c'était exactement ça. Vous avez vu que la jeune femme qui était invitée, quand on lui offrait un verre, elle pouvait rendre un verre.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où elle ne pouvait absolument pas être en dette. Hein.
Mmh, mmh.
Voilà. Mais en s'économisant, on a l'impression de gagner des années.
Mmh. Mais hein. Alors, si j'écoute bien ce que vous me dites, on s'économise sur tout lorsqu'on est radin, et y compris sur l'amour, sur l'amitié, sur tout ce qu'on peut offrir à l'autre ? On est dans cette peur-là même ?
La radinerie profonde, quand c'est vraiment au maximum, c'est effectivement s'économiser sur tout.
Mmh.
Hein, ce sont des personnes qui, malheureusement pour elles, si elles ne soignent pas, ou si elles n'ont pas aussi un entourage qui essaye de les sortir de là, ce sont des personnes qui terminent seules.
Mmh.
Ce sont des personnes que l'on retrouve seules, couchées sur un matelas d'or. Et ça existe encore, c'est pas uniquement dans les romans.
Alors moi j'ai une amie avec ma femme, on a une amie qui est radine et qui s'ignore totalement, alors qu'elle ne manque de rien et qu'elle est très intelligente, très drôle, mais pourtant elle est radine. Pourquoi n'a-t-elle pas conscience de cela ? Parce que c'est souvent le cas, hein. Les radins n'en ont pas conscience.
Les radins n'en ont pas conscience, d'une part si on ne leur fait pas prendre conscience.
Mmh.
Et ils n'en ont pas conscience précisément parce que, comme je suis psychanalyste, je vais vous répondre comme ça, c'est un mécanisme profondément inconscient. C'est un mécanisme inconscient. On a l'impression de ne pas pouvoir vivre autrement. Alors, dans certains cas, c'est une tradition familiale. Cette jeune femme dont on nous a parlé juste avant, c'est quelque chose qui a été transmis comme ça. Elle a été élevée là-dedans.
Mmh, par son père.
Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on eut un père ou une mère radine qu'on devient radin. Très souvent, ça fait exactement l'inverse. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire que les enfants de radins sont souvent, au contraire, des gens très prodigues.
Mmh.
Mais ce sont des mécanismes profondément inconscients. La première chose de l'entourage, c'est sans agresser la personne, c'est peut-être leur faire dire, écoute là, c'est peut-être un peu trop. Hein. Tu vas quand même pas te rendre malade en voulant aller manger dans un restaurant qui est un boui-boui sans hygiène.
Mmh. Patrick Avran, restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à nous interroger sur ce qu'est la radinerie et vous allez continuer à nous apporter vos éclairages.
Et Marie-Clémence témoigne au 39-21, elle a 56 ans. Elle dit « Dans ma famille, ma mère était bourgeoise. Mon père, lui, était issu d'un milieu modeste. Il a beaucoup manqué quand il était jeune. Il lui arrivait de se nourrir de farine et d'eau pour se remplir l'estomac. Aujourd'hui, il vit chaque dépense comme un drame. »
Europe 1.
Vous vivez avec une personne avare, c'est votre défaut. Et vous essayez de le combattre. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez le 39-21. Vous dites de vous que vous êtes économe, vos proches répondent que vous êtes radin. C'est un problème pour vous de dépenser de l'argent, vous vivez avec un radin. Pour échanger avec Olivier Delacroix, vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Patrick Avran, psychanalyste et écrivain, auteur du livre « Petite psychanalyse de l'argent ». Patrick Avran, vous dites dans votre ouvrage que notre utilisation de la monnaie rend compte du désir qui nous anime. Qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, c'est-à-dire que l'argent, il faut... ça n'existe pas en soi. Hein. L'argent, c'est quelque chose qui se transforme, c'est-à-dire que l'argent, c'est de la monnaie.
Oui.
Le propre de la monnaie, c'est que ça peut être transformé en n'importe quoi. Donc avec cette monnaie, on peut soit la mettre dans un coffre-fort et ne jamais plus y toucher, comme Picsou, on peut l'accumuler, ou on peut a priori acheter tout ce dont on a envie, ce qui est achetable bien évidemment. Quand je dis que ça rend compte de son désir, c'est-à-dire qu'effectivement, ça rend compte de ce que l'on a envie de faire avec l'argent, parce que si on a envie d'acheter un bouquet de fleurs ou l'offrir à quelqu'un, on peut le faire, mais si on a envie de ne pas le dépenser, on peut le faire. Et ça rend compte au fond du rapport que l'on a aux autres. C'est-à-dire que l'argent, ça permet d'offrir, de ne pas offrir. Ça permet aussi de s'acheter ce dont on a envie ou bien ce dont on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. C'est l'argent, c'est différent. La monnaie, c'est différent du troc.
Oui. D'accord. Ça me faisait penser, j'étais en train de penser à quelqu'un que je connais qui a beaucoup d'argent en fait, qui est dans le milieu et qui par exemple peut s'offrir des belles voitures, qui peut s'offrir des trucs pour lui, mais quand il est question de offrir aux autres, finalement, il en est incapable. Oui. Comment différencier un économe d'un radin ?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport que l'on a à l'argent est complètement indépendant de la quantité que l'on a.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des pauvres qui sont, enfin des gens qui ont relativement peu de moyens et qui sont très dépensiers,
oui.
Et il y a des personnes fortunées qui sont extrêmement radines. Hein.
D'accord. Et comment expliquer que quelqu'un qui soit si près de ses sous en vienne à ne pas avoir, ne serait-ce que de petites attentions pour les personnes qu'il aime qu'est-ce que ça dit de nous finalement, cette radinerie, cet égoïsme vis-à-vis de son entourage ou des amis proches?
Bah, ça dit de nous que quand on est très radin, on a du mal à être en relation aux autres, et parce que la relation aux autres, ça passe toujours par une dette. Une dette, c'est pas uniquement une dette d'argent, hein. C'est une dette d'amour, des échanges ou d'amitié. Hein.
Oui.
C'est des échanges.
Oui.
Mais l'échange le plus visible, c'est celui qui peut se faire avec de l'argent. Et le radin, c'est en même temps quelqu'un qui a peur des autres. Et qui a peur de rentrer dans une relation d'échange.
Toujours par peur d'être en dette.
Toujours par peur d'être en dette et toujours par peur de se perdre dans la relation à l'autre.
Parce que moi, j'ai l'impression, docteur, que les radins sont surtout ceux qui gagnent bien leur vie. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ça ?
Pour être radin, il faut avoir suffisamment d'argent pour s'autoriser à ne pas en dépenser une partie.
Ouais.
C'est très simple. C'est-à-dire que si on a de l'argent juste pour vivre, on ne peut pas être radin puisqu'on est obligé de dépenser son argent. Hein. Donc le radin, plus il a de l'argent, plus il a la capacité d'être radin. Hein. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'un certain nombre de personnes travaillent non pas pour le plaisir, mais travaillent pour gagner le plus possible d'argent. Et quand on a un tel amour de l'argent, bien souvent, on n'a pas envie de le dépenser. Donc que le fait qu'il y ait des personnes riches qui soient radines, ça va ensemble. À partir du moment où leur richesse n'est pas acquise parce que ils ont fait fortune, par exemple, dans le métier qu'ils avaient envie de faire,
hein,
ça existe,
mais
parce qu'ils ont fait fortune, parce qu'ils voulaient faire fortune, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Moi, j'en connais certains que pour qui les deux raisons que vous venez de citer sont les bonnes. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et écrivain, auteur du livre Petite psychanalyse de l'argent, Patrick Avran, et justement, vous faites bien de parler ça parce que dans quelques instants, nous accueillerons David, l'un de ses meilleurs amis, est un vrai radin et à ce que j'ai compris, il a aussi pas mal d'argent.
Europe 1.
Quand dépenser de l'argent devient une source d'angoisse, vous êtes radin, avare, l'un de vos proches l'est, vous nous racontez au 3921, vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes toujours en train de faire les comptes, on parle des radins, vous vivez avec une personne avare, vous retrouvez Olivier Delacroix et vous témoignez au 3921.
Et malheureusement, nous ne sommes pas encore avec David, qu'on devait avoir, mais nous sommes avec Gabriel et je m'en réjouis. Bonjour Gabriel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Près de Lille.
Près de Lille.
Dans le Nord.
Et quel âge avez-vous ?
J'ai 71 ans.
D'accord. Alors, ce problème de radinerie concerne votre sœur qui est mariée.
Le mari.
Oui, mais alors, donc le mari de votre sœur. Racontez-moi comment ça se passe entre votre sœur et lui.
Je serai certainement moins loquace que les personnes précédentes parce que c'est quelque chose qui me fait souffrir, qui nous fait souffrir, nous, les cinq autres frères et sœurs.
D'accord.
On a un beau-frère odieux depuis toujours. J'ai une sœur qui a maintenant 74 ans, qui a travaillé toute sa vie, qui ne sait absolument pas ce qu'il y a sur les comptes,
oui.
qui a 50 euros par semaine.
Mm-hmm.
Non, c'est ce que je dis par mois.
Par
pour
mois.
Pour ses petits frais personnels, sinon elle ne sait pas ce qui se passe dans le porte-monnaie. C'est lui qui fait les courses, donc il y a dans le frigo ce qu'il a décidé.
Oui.
Il fait couler son eau du bain pour pas qu'il y ait trop d'eau.
Mm-hmm.
Elle doit éteindre la télévision lorsqu'elle doit aller aux toilettes.
D'accord.
Parce qu'il est, lui, il dort dans sa chambre, il est dans le salon, mais il se met en colère s'il entend la télé fonctionner alors qu'elle est aux toilettes.
Alors, on est d'accord que il ne veut pas qu'il regarde la télé pendant que lui monte dans la chambre pour des raisons d'électricité.
Non, c'est pas ça. Lui, il est dans sa chambre avec sa propre télé. Elle est au salon. Mais s'il entend qu'elle parte aux toilettes sans éteindre la télé,
c'est
une furie. C'est une furie.
Pour des raisons donc
de radinerie.
De radinerie. Mais je pense que tout à l'heure j'entendais dire qu'un radin c'était quelqu'un qui voulait dépenser le moins possible. Mon beau-frère, ça va au-delà. Il veut en avoir le plus possible et on ne sait pas pourquoi.
Mmh. Justement, Gabrielle, vous dites on ne sait pas pourquoi. Quel âge a-t-il, cet homme-là ?
75 ans, il n'est plus en bonne santé.
D'accord, 75 ans, il n'est plus en bonne santé et pourtant, il ne dépense en rien. Et si je comprends bien, ses comptes en banque ou son compte en banque doit être assez fourni puisqu'il ne dépense en rien.
Ils ont leur appartement et il a toujours économisé. Bon, c'était les petits salaires, il était chauffeur de bus, vous voyez, mais il a toujours économisé. Il a 4 ou 5 petits-enfants, il ne sait pas faire de cadeaux.
Mmh.
Ma sœur, elle doit économiser sur ses 50 euros pour donner 5 euros aux anniversaires. Et puis, il n'y a pas moyen. Elle est rhabillée par Pierre, Paul ou Jacques parce qu'elle ne peut rien s'acheter.
Oui.
Il lui achète des pantoufles, il s'arrange pour avoir des pantoufles par le biais du médecin à la pharmacie, vous voyez. Et tout ce qu'il peut ne pas payer, mais ça va très, très loin. D'abord, je ne pourrais même pas raconter à l'antenne jusqu'où ça peut aller parce que c'est trop dur.
Vous savez, vous pouvez raconter, parce qu'on est là pour en parler et faire avancer un petit peu pour que chacun s'identifie à ce type de situation. Mais est-ce que cet homme a conscience qu'il fait souffrir sa femme et qu'il vous fait souffrir, vous
Oui, mais on peut jamais beaucoup en discuter parce qu'il coupe court et après on sait qu'il y a des représailles.
Des représailles sur votre sœur.
D'abord, on ne va plus chez lui, donc elle ne nous voit plus beaucoup.
Ouais.
Parce que quand nous, on fait une fête de famille, on est très, très famille, très liés tous.
Ouais.
On est tous dans le chagrin à cause de ça.
Mm-hmm.
Et elle est toujours invitée, ma sœur, moi, on ne veut plus le voir.
Mm-hmm.
Et elle ne veut pas venir sans lui. Donc, vous voyez, il a fait le vide complet autour d'elle.
Ouais.
Ça, au fil des années, ma sœur a déjà fait une tentative de suicide. Elle s'est jetée par la fenêtre, elle a une jambe fichue. Et elle fait de la dépression depuis longtemps. Et aujourd'hui, parce qu'on a une vie difficile en jeunesse, donc on se pose encore la question, est-ce que ça vient de notre jeunesse, en tout cas de sa jeunesse à elle, comment elle l'a perçue, ou est-ce que ça vient depuis son mariage ? On n'arrive pas à répondre à cette question. Et donc son mariage ne l'a pas arrangé.
Ombline.
Oui, Gabriel, je voulais vous demander, il ne dépense rien pour elle, pour lui. Est-ce que vous parliez, par exemple, vous donniez cet exemple des pantoufles. Est-ce que pour lui, il dépense non plus ? C'est pareil.
Par contre, il va au restaurant tous les dimanches avec sa sœur. Ma sœur ne veut plus le suivre, donc elle mange ce qu'il y a dans le frigo, c'est des brouilles. Il va au restaurant parce qu'il adore le restaurant, il adore manger.
Oui.
Mais c'est tout, ça se limite à ça, parce qu'il a encore sur lui des vestes et des chaussures de son travail de transport, oui.
Mm-hmm. Patrick,
75 ans, donc.
Patrick Avran, vous entendez le témoignage de Martine. Qu'est-ce que ça dit de cet homme-là, en fait, qui ne dépense pas du tout et qui fait vivre un enfer à sa femme, mais aussi à sa famille, à ses petits-enfants ?
De cet homme-là, je ne peux pas en dire grand-chose dans la mesure où je ne le connais pas. J'ai entendu ce qui a été dit. Je veux parler de choses plus générales.
Oui, bien évidemment.
Ce que l'on entend à travers ce que l'on dit, c'est une autre forme, on pourrait dire, de l'avarice. Le fait d'avoir de l'argent, de le garder, de ne pas le dépenser, de vouloir que personne ne le dépense, ça donne un sentiment de toute-puissance. Et on entend qu'en même temps, cet homme, il a d'une certaine manière un désir de puissance. Hein. Ça donne un sentiment de toute puissance. Pourquoi ? Parce que c'est harpagon. C'est-à-dire que quand on a de l'or, de l'argent, de la monnaie, on a le sentiment de posséder le monde.
D'être puissant ?
D'être puissant parce qu'on l'est virtuellement, puisque plus on a d'argent, plus on peut acheter de choses. Hein.
Contrôler ?
Oui, on a le sentiment de pouvoir contrôler le monde et d'avoir un sentiment de puissance sur les choses. Mm-hmm. Je suis celui qui possède le plus d'argent, donc je suis celui qui possède le monde. Et comme je possède le monde, je possède tout le monde autour de moi. Mmh. Et ça peut s'étendre effectivement à toutes les personnes qui sont autour de soi.
Patrick Havan, vous restez en ligne avec nous. Gabriel, mille merci pour votre témoignage au 3921. Et bien évidemment, je vous souhaite plein de courage. Et il ne faut pas laisser tomber. Et continuez à parler à votre sœur pour essayer de soit qu'elle supporte cette situation, ou soit à 74 ans, on peut toujours partir. Hein. En tout cas, merci d'avoir eu le courage de témoigner de cette histoire.
Il y a Erwan qui nous écrit sur Facebook. Ma grand-mère me racontait qu'enfant, ses parents étaient dans la classe moyenne. Elle n'avait le droit, elle et sa sœur, qu'à une seule glace, chacune, hein, pendant les vacances d'été, le seul plaisir gourmand de l'année. Une année, sa sœur a eu la maladresse de faire tomber sa glace par terre. Hors de question d'en racheter une deuxième. Les deux sœurs durent partager la seule glace qui existait.
Et dans quelques instants, nous retrouverons Martine, dont l'ex-mari est passé de généreux à radin.
Comme Gabriel que nous avons entendu, vous avez un proche, disons très très près de ses sous, avare. Vous témoignez au 39-21, vous nous écrivez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez le 39-21 pour venir nous raconter votre quotidien avec un proche radin. L'avarice est-il pour vous un défaut rédhibitoire ou avez-vous appris à composer avec? Écrivez-nous, réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Martine. Bonjour Martine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous?
De Besançon, j'ai 50 ans.
D'accord. Alors, cette radinerie, hein, cette pingrerie concerne votre mari qui était plutôt généreux avant. Comment cette transformation s'est-elle opérée?
Bien, c'est vrai que quand on s'est connu, c'était quelqu'un de joyeux, de vivant, de plutôt généreux, effectivement.
Oui.
Qui comptait pas spécialement, hein, sans être non plus trop dépensier. Il avait pas de. Voilà, on vivait normalement, je dirais. Mm-hmm. Et puis, arrivé à la trentaine, une maladie grave génétique s'est déclenchée. Mm-hmm. Et qui a aussi déclenché chez lui, moi, je pense, un problème d'acceptation. Et puis ensuite, il a été greffé. Et je crois que ça a été aussi là. Il a refusé toute prise en charge psychologique.
Oui.
Et c'est à partir de là que petit à petit, j'ai vu des comportements qui étaient curieux.
Mmh. Donc, que faisait votre mari, en fait, dans la vie?
Il était ingénieur.
Pardon?
Ingénieur.
Ingénieur. Donc, je suppose qu'il a été obligé d'arrêter de travailler momentanément ou alors complètement?
Ben, on a eu quelque part de la chance, puisque c'est vrai que ça n'a duré que 6 mois.
Oui.
Il a réussi à travailler en temps partiel pendant la dialyse. Mm-hmm. Et ensuite, il a eu un arrêt, oui, qui a été de 6 mois maximum. Je
d'accord.
Pense,
voilà. Donc, finalement, il a continué à travailler et donc continué, oui, à toucher le salaire qu'il avait avant.
Oui,
et tout à coup, en fait, tout cela s'est transformé en peur, finalement, de manquer ou...
Oui, en plus, moi, je travaillais aussi. J'avais aussi un bon salaire. On a tous les deux de bonnes situations. Mm-hmm. Et donc, je ne comprenais pas. C'était assez irrationnel.
Par quel type, Martine, de situation vous avez commencé à observer ce nouveau pan de votre mari?
Ça a commencé tout doucement sur les courses.
Oui.
Notamment, il ne comprenait pas que j'achète, qu'on en ait pour si cher de courses, de nourriture, de produits frais.
Oui.
Donc, j'ai dit, mais on est une famille nombreuse, on a besoin de ça. Enfin, voilà. Et puis ensuite, on faisait garder les enfants par une nourrice agréée. Et chaque mois, c'était un vrai scandale. À chaque fois que je faisais le bulletin de salaire de la nounou, c'était une catastrophe. Mmh. À un point que j'en devenais presque craintive et j'ai fini par lui dire, mais fais-le toi-même puisque je fais mal, puisque voilà. Donc ce qu'il n'a pas fait, mais je pense que c'était vraiment pathologique, c'était plus fort que lui. Oui, ça le rendait fou de voir des sommes considérables partir chez une nounou alors que ça ne nous faisait manquer de rien. Quoi. Encore une fois, on avait toujours à temps plein.
Alors avec ce côté généreux, je suppose qu'avant cette maladie et cette greffe, vous aviez un échange avec votre mari. Quand on est généreux, c'est synonyme d'échange. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous lui avez fait remarquer qu'il avait profondément changé ou est-ce que vous avez eu peur de lui faire remarquer?
Comme disait votre auditrice précédente, c'était extrêmement compliqué de lui faire comprendre qu'il avait changé d'une part, et
oui,
puis qu'il y avait un souci d'autre part. Et c'est vrai que cette générosité du cœur, hein, que vous avez, on l'a bien vu, moi c'est un petit peu ce qui m'a incité à appeler, c'est qu'à la limite, la générosité matérielle, c'est pas très grave, mais ce qui qui est le plus dur dans la radinerie, c'est aussi la radinerie du cœur. Hein. Le temps qu'on consacre à l'autre, l'écoute qu'on a à l'autre, tout ça, ben c'était aussi des temps qui étaient comptés, qui étaient, puis qui devenaient de plus en plus rares, quoi. Mmh. Et c'est vrai que parler avec lui, c'était devenu impossible, quoi. Mmh.
Ça colle parfaitement à ce que Patrick Avran, hein, que nous allons retrouver dans quelques instants, et avec qui vous allez pouvoir échanger, Martine, ça colle parfaitement à ce que Patrick Avran expliquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est radin sur l'argent, mais qu'on devient radin aussi par les par action qu'on peut avoir envers les autres et puis se sentir en dette. Vous restez avec nous et vous allez pouvoir poser quelques questions à Patrick Avran pour qu'il vous éclaire sur voilà sur l'attitude de votre mari et peut-être vous conseiller quelques comportements qui pourraient l'amener à réfléchir.
Europe 1.
Vous avez une peur maladive de manquer, vous comptez chaque sou. Vous êtes avare, c'est le cas d'un de vos proches, on vous attend au 3921. Difficile de partager la note quand on est radin, vous êtes avare, l'un de vos proches, vous discutez avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Patrick Avran, psychanalyste et auteur du livre Petite psychanalyse de l'argent. On est toujours aussi avec Martine, hein, qui nous parlait de son ex-mari, passé de l'étape généreuse et en passant par la maladie, étant devenu radin. Martine, vous évoquez cette radinerie du cœur. En fait, oui. Ça se traduisait comment ?
Ben, je dirais que ça se traduisait par exemple, rendre un service pour lui, ça lui coûtait. C'est ce que vous disiez. J'ai débarrassé le lave-vaisselle, donc je me le prenais en remarque. Alors moi, j'oubliais de dire, ben oui, mais moi j'ai mis la table, j'ai fait à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai couché les petits. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais si tu veux qu'on ait vraiment une relation comptable du temps qu'on passe chacun aux tâches ménagères. Ça va devenir invivable.
Oui.
Mais si tu veux, on va faire le compte. Je vais me mettre à faire le compte aussi de ce que je fais pour le ménage. Je dirais aussi, même pour les moments qu'on passait ensemble, ben, il n'y en avait plus les moments, même ne serait-ce que d'intimité du couple, il n'y en avait plus non plus, quoi, pendant des mois et des mois. Hein. Mmh. Donc c'était dur quand même.
Et Patrick Avran parlait justement de se trouver en dette. Est-ce que vous aviez l'impression que c'est ce que... Vous transmettez votre mari, en fait, c'est bah moi j'ai fait ça, donc tu dois faire ça. C'était un peu
exactement.
Ça.
Exactement. C'était vraiment. Enfin, alors pas vraiment, mais il me le faisait. En fait, il comptabilisait tout ce qu'il faisait. Alors, je le sentais pas forcément comme pour me le mettre à travers la face, mais on sentait que ça lui coûtait à chaque fois. On sentait que ça coûtait quelque chose pour lui ou rendre service à des amis. Ben non, moi on me rendrait pas service, donc je vois pas pourquoi je rendrais service. Ben voilà, c'est quelqu'un de très malheureux. Je me rends compte avec le temps qu'on a fini vraiment isolé. Mmh. Alors je ne peux pas dire que c'est entièrement de sa faute parce que c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas forcément fait tout pour rattraper les amis parce que c'est vrai que quand on finit par cacher ces choses-là, hein, c'est vrai qu'on en est presque honteux. Donc
on finit par culpabiliser pour l'autre aussi, Martine, hein, c'est ce que j'entends.
Ouais,
hein
ouais,
et ça, il ne faut pas.
On a honte, on a...
Ouais, ouais, mais il ne faut pas. Ce n'est pas vous qui est dysfonctionné, là. C'est malheureusement à cause de la maladie. Vous aviez justement une question à poser, je crois, à Patrick Avran. Il vous écoute.
Oui, est-ce que la maladie peut révéler une forme d'avarice ? Alors, moi, c'est vrai que ce n'est pas forcément une avarice matérielle, parce qu'à côté de ça, il achetait des équipements sportifs extrêmement chers, des choses, même en cadeau à Noël, il faisait des cadeaux en bijoux qui me dépassaient un peu, parce que c'est vrai que je ne comprenais pas trop le sens de ces bijoux. Mais c'est vraiment en termes d'avarice du cœur, du temps qu'on consacre à l'autre, de l'écoute qu'on a à lui. Même quand de temps en temps je lançais la perche, je dis on va aller voir un sexologue, il faut qu'on s'occupe de nous, ça va pas.
Et là, vous vouliez demander quoi à Patrick Avran ?
Savoir si l'avarice peut être une forme de compensation d'un manque lié à la maladie. Enfin, est-ce que la maladie a pu déclencher cette forme d'avarice ?
Oui.
Psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai que j'ai.
Ce qui s'est passé pour votre mari, on peut rien en dire. Il n'y a que lui qui pourrait le dire. En revanche, ce que vous avez tout à fait remarqué, et ce qui semble tout à fait évident dans ce que vous dites, c'est que c'est à la suite de cette grave maladie. Grave maladie, c'est-à-dire qui est quand même où il y avait un risque de mort, même si j'ai bien compris hein, ce dont il était question. C'est pas une grippe, hein. C'est une grave maladie qui a sans doute chez cet homme changé son rapport au monde. On peut pas en dire beaucoup plus, mais il y a quelque chose là qui est tout à fait dans la dans la façon de sortir d'une maladie sans véritablement s'en sortir. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la maladie physique a apparemment été soignée. Vous avez dit que vous aviez envisagé, vous lui avez proposé ou lui a été proposé d'avoir un suivi psychologique, si j'ai bien compris, à ce moment-là, qu'il n'a pas fait. Il y a quelque chose qui est lié à ça. C'est une façon... là de s'économiser. Hein. Quand on a frôlé la mort, il y a toujours la peur que ça recommence. Une façon de s'économiser, de pouvoir rester en vie, c'est de se dire moins j'en fais, plus j'aurai de temps pour moi.
Mmh. Patrick Avran, je rappelle que vous êtes psychanalyste et auteur du livre Petite psychanalyse de l'argent. Je vous remercie pour tous les éclairages que vous nous avez apportés pendant cette émission. Merci aussi beaucoup à Martine pour son témoignage. Merci à Gabriel, à Laura et merci de nous avoir appelés tous. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris que la radinerie traduit avant tout une peur de manquer, mais aussi un besoin de tout contrôler. Le radin aime l'argent et moins il dépense, moins il se sent en danger. On a vu combien il peut être difficile de vivre aux côtés d'un radin. Socialement, la radinerie est une épreuve au quotidien. Nous l'avons vu avec Patrick Avran, notre rapport à l'argent dit beaucoup de nous et de notre histoire familiale. Donc, à réfléchir si vous réécoutez cette émission une deuxième fois. Pourquoi, pour qu'un radin change, évolue, il faut déjà une prise de conscience qui peut être provoquée, à mon avis, uniquement par l'entourage, ou en tout cas un entourage familial ou l'entourage du travail, des amis. Ensuite, il faut envisager une thérapie et pourquoi pas lâcher prise sur cette radinerie. Vous pouvez continuer à en parler sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, tous les sujets de cette émission, chaque après-midi, sont les vôtres. N'hésitez pas à vous emparer de chacun de ces sujets sur Facebook. Ils ont une seconde vie grâce à vous.
Oui, vous parlez beaucoup sur cette page.
Vous continuez d'échanger sur le groupe de l'émission.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble des troubles 10, les troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dysphasie ou la dyspraxie. Comment vivre avec? Si vous avez un enfant qui a un trouble 10, si vous en avez vous-même un, si vous avez été avec ce trouble durant votre jeunesse et qu'aujourd'hui vous êtes ingénieur et qu'il vous accompagne toujours ce trouble, si quelqu'un de votre entourage vit avec un trouble 10, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.
Ah,
ma chère Ambline,
eh
ben oui,
excellent,
là
week-end,
on y est.
Là c'est bon.
On y est là.
Bon week-end.
Comment ça va les filles?
Nous super bien.
On a le Friday Face,
la
tête du vendredi.
Et on joue avec qui aujourd'hui?
Avec Raphaël Mezrahi.
Raphaël Mezrahi, que je connais depuis.
Depuis tout petit.
Exactement. Alors avant de vous passer l'antenne, je vais remercier Katia Maxime et Angèle Châtelier à l'éditorial, Cyril Pascal et Jean-François Bussière à la réalisation, et vous aussi ma chère Ambline de m'avoir accompagnée toute la semaine. Bonne émission les filles, marrez-vous.
Et à tout de suite avec Laurent Coligny.